Salut Louis, comment vas-tu?
Je vais très bien toi-même.
Oui, ça va bien. Je vais revenir sur cette pratique. C'est un match intra-équipe, on va dire que c'est une pratique. À l'époque où j'étais ticup, on allait au Nordique, c'était la pratique mium-mium où il y avait autant de gens dans le Colisée. Là, c'est le match intra-équipe, les Rouges contre les Blancs, qui regroupe 19 000 personnes pour la Fondation du Canadien pour l'enfance, 5 $. Je suis très à l'aise avec l'exercice. Par contre, j'ai une question pour toi. Est-ce que le fait de voir autant de gens dans le Centre Bell, c'est on s'adresse à une toute autre clientèle de gens qui n'auraient pas nécessairement les moyens d'aller à un match régulier? C'est ça l'exercice?
Oui, il n'y a aucun doute. Et c'est l'opportunité pour les partisans, les jeunes, les jeunes familles de pouvoir y aller. Parce que la réalité, c'est qu'on adore le hockey, on adore différentes formations, différents joueurs dans la ligue. Mais la réalité, c'est, écoute, moi, tu sais, on parle souvent de mes enfants, de ma famille. J'ai 3 enfants et je suis pas dans une position où ça me coûterait bien trop cher d'amener ma famille au Centre Bell pour aller voir un match du Canadien. Puis je dis ça, je suis 100% et complètement honnête avec toi.
Oh oui.
Alors, c'est le moment dans l'année où tu peux le faire, parce que même les matchs préparatoires coûtent extrêmement cher, là, c'est le même prix. Alors, c'est vraiment cette opportunité-là dans l'année. Il y a aussi une pratique des Canadiens de Montréal pendant l'année aussi, où on fait le même exercice, mais c'est une des seules opportunités d'aller voir le Canadien jouer, autre que par hasard, si tu es capable d'aller à Brossard, aller voir les joueurs pratiquer. C'est le seul moment où c'est quand même abordable.
Bon, en 24 heures, on passe de 5 piastres à 125. Les matchs hors concours, Louis, c'est un peu long. Je parlais avec Simon Gagné dans mon émission la semaine dernière, puis il me disait, tu sais, moi, Dan, à un moment donné, là, tu sais, quand t'es sur le bord de faire l'équipe, c'est important, puis tu veux te prouver, mais quand ça fait 5-6 ans que tu joues dans la Ligue, puis 10 ans pour certains, ben ça te tente pas d'y jouer tous les matchs hors concours. Est-ce qu'il faudrait que la Ligue nationale revoie un peu son calendrier? Tu sais, là, il y a plein de gens ce soir qui vont être déçus que Jack Hughes puis Piqué Subban ne jouent pas. Faut expliquer quand même aux auditeurs à l'écoute de mon émission ce soir que les Devils ont un match contre les Bruins à la maison. Et ouais, pour chacun des matchs hors concours, il y a une règle de la Ligue nationale qui dit que ça te prend au moins 8 joueurs vétérans. Et par vétéran, on n'est pas très exigeant, là. On demande 30 matchs l'année dernière, 100 matchs en carrière, ou ton choix de première ronde l'année précédente peut être considéré vétéran. Donc, les Devils respectent ces règles pour ce soir, mais ils ne nous envoient pas un club d'élite, hein?
Non, puis c'est le cas. Regardez, il y a eu des matchs des Canadiens de Montréal à Québec dans le passé.
Oh, c'était pas beau.
Je pense que des gens étaient très déçus de voir l'alignement que le Canadien présentait.
Exact.
Alors, c'est comme ça pour les Devils, c'est comme ça pour le Canadien qu'ils font régulièrement. C'est aussi des revenus. Je dis, bottom line, là, c'est le camp d'entraînement, c'est la façon d'évaluer, le moment d'évaluer ton équipe, d'évaluer surtout, je dirais, des jeunes, parce que la réalité, c'est que, écoute, là, chaque organisation a le droit d'avoir 50 contrats professionnels, OK? Alors, ils ont déjà une bonne idée, là, quand tu commences le camp d'entraînement, qui va être là, qui est pas là, puis t'as une ou deux surprises, normalement, peut-être, t'as peut-être de la place un peu pour pouvoir faire de la place à un joueur qui va venir essayer de te surprendre, qui va venir entasser un autre, puis là, t'as des décisions difficiles à prendre à par la suite. Mais la réalité, c'est que c'est une opération pour préparer ta saison. Tu veux t'assurer que plus t'arrives vers la fin du camp d'entraînement, t'es rendu, tu commences à vraiment faire tes sorties de zone. Tu veux t'assurer que dans le cas du Canadien, tes unités spéciales, ton avantage numérique particulièrement. Je sais qu'on commence à le travailler dès le jour 1 du camp parce qu'on veut absolument faire en sorte que ce ne sera pas l'épée de Damoclès qui te pendait par-dessus, qui est au-dessus de ta tête l'année passée, qui a fait en sorte qu'essentiellement t'as pas rentré en série.
Exact.
Fait que c'est sûr que c'est une opération d'évaluation, de chambre, de voir un peu tes kids. C'est aussi, il y a un côté financier lié à ça. Il y a aucun doute, là. Ça, c'est certain que c'est comme ça que ça fonctionne à Montréal et que ça fonctionne ailleurs. Mais le bémol que je porterais, et je sais que tu regardes les sports autres que juste le hockey aussi, t'aimes le tennis, le golf, le football et tout ça, regarde ce qui s'est passé dans les camps d'entraînement dans la NFL, où il y a beaucoup d'équipes qui ont dit « Moi, je préfère mettre du papier bulle autour de mon joueur. Je préfère, autrement dit, qu'il se blesse pas, mon corps arrière ou un autre joueur important. » Alors, lui, il va faire 0 match préparatoire.
Ouais.
Et on a vu ce que ça a donné, premier match de la saison entre les Bears puis les Packers. Ça a été affreux. Et même chose le premier dimanche, à quel point il y avait des équipes qui étaient pas à point. Il y avait un manque de cohésion et de chimie. Et ça, c'est quelque chose que t'as peut-être pas besoin de jouer 7 ou 8 matchs préparatoires.
C'est ça.
Ça, c'est sûr.
3,
mais en
4,
même temps, t'as besoin d'en jouer. C'est ça, t'as besoin. Parce que, à part quelques exceptions, là, c'est difficile de juste dire, j'allume l'interrupteur puis je suis prêt à commencer.
OK. Toi, dans le camp d'entraînement, les deux gars pour toi qui sont sous les projecteurs, est-ce que c'est les deux mêmes que moi, c'est Peerling puis Suzuki?
Je te dirais que c'est Peerling et c'est Hudon, c'est à la ligne bleue, c'est des batailles intéressantes. Pour moi, Suzuki est pas prêt.
Non?
Pour moi, Suzuki, c'est une erreur de le faire jouer. Je sais qu'ils l'ont mis au centre. J'étais là lorsqu'ils ont fait les premiers trios à l'entraînement de vendredi. On avait hâte de voir, OK, on va mettre qui, où, à quelle position, et il joue avec qui. Ça, c'est une autre chose qui est importante. Avec qui on te place dès le début pour ces genres de matchs-là. Alors, je sais, c'est sûr qu'ils regardent Nick Suzuki. C'est clair que Peerling, je dirais, a peut-être une avance un peu aussi, parce que Peerling peut jouer facilement sur ton quatrième trio, sans problème. Peut-être que tu le commences là. Peut-être que tu essaies de trouver une place pour lui, éventuellement le faire monter sur un troisième trio. Mais Nick Suzuki, ce qu'on s'entend que lui, si on l'amène, on veut qu'il ait un rôle offensif. Tu es d'accord avec
ouais,
ça?
Oui, aucun doute, aucun doute.
Alors, pour moi, il est pas là. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour, je parlais avec un entraîneur qui l'a vu beaucoup, et lui, il me disait, Pace, le pace, je ne sais pas trop comment traduire ça en français,
le rythme
dans lequel il joue.
Ouais.
Dans le junior, il jouait peut-être 24 à 26 minutes par match, là, c'est énorme.
Ouais.
Et ça veut dire aussi que sur la glace, des fois, tu triches ou tu prends des pauses sur la glace. Il y a des moments où tu pousses, il y a des moments où tu ne pousses pas, parce que c'est pas vrai que tu peux jouer 24 à 26 minutes par game, puis tu es capable d'attaquer puis d'être toujours optimal. C'est pas vrai. Alors, si tu fais ça dans le junior, c'était un petit peu ce que lui faisait, en tout cas. Des fois, il disparaissait sur la glace, ou des fois, il se cachait un peu sur la glace. Il n'est pas prêt, je pense, actuellement. Je peux me tromper, mais selon moi, le pace là, de jouer au hockey professionnel tout le temps,
c'est
pas quelque chose qui est encore dans sa game, et selon moi, c'est dans la Ligue américaine qu'il va aller l'apprendre, pas dans la Ligue nationale à Montréal.
Mais quand tu dis joueur offensif particulièrement, t'as bien raison, mais est-ce que pour toi, ça sous-entend que tu veux le voir dans les deux premiers trios, sinon à Laval?
Oui,
oui. OK,
OK. Sinon, tu dénatures le joueur.
Okay. Parfait. J'accepte ta théorie pour Suzuki.
En fait, t'as dit deux premiers trios, je te dirais trois premiers trios.
Trois premiers, parce que c'est ça, il faut élargir un peu, parce que Jesperi Kotkaniemi, c'est la nouvelle coqueluche de Montréal. On le voit très bien depuis l'ouverture des tests physiques. Il a pris 14 livres, et là, hier, il a bien fait le long des rampes. Tu sais, c'est vraiment, là, on vend l'espoir avec Kotkaniemi, c'est indéniable. Cet hiver, c'est la ligne pour le Canadien. Et il y a certains médias, malheureusement, qui embarquent dans cette ligne-là de relations publiques. Mais ceci dit, Kotkaniemi, lui, c'est un joueur offensif qui joue pas pour l'instant sur les deux premiers trios.
Non, puis c'est ça. Écoute, c'est pour ça que je veux vraiment apporter la précision. Tu es capable de produire, puis tu es capable d'avoir des minutes sur les trois premiers trios. Quand tu es sur le quatrième trio, tu deviens un spécialiste, tu deviens un gars que c'est facile à tasser, puis t'es, en termes de minutes, c'est facile de t'en faire jouer, mettons, 7 minutes un soir, 7-8 minutes. C'est facile aussi, le match suivant, que tu sois d'un gradin, on donne une petite pause, va regarder d'en haut, tout ça. Selon moi, ça devient facile. T'es un gars qui est beaucoup plus en danger. Alors, pour moi, si tu vas amener Suzuki, il faut assurément que tu le mettes dans un rôle offensif, sinon,
ben
tu
d'accord.
vas dénaturer.
Ouais.
Et c'est un gars qui commence pas à faire ça. Ça veut dire qu'il est pas prêt. T'es pas assez sûr. Si t'es pas assez sûr, fais pas cette erreur-là. Puis de toute façon, comme Claude Julien, puis tu sais, je te dis souvent à quel point c'est pas tant ce que le monde dise, c'est ce qu'ils disent pas, ou c'est, faut décoder un peu le message.
Ouais.
Claude Julien, le lundi passé, là, au tournoi de golf des Canadiens de Montréal, il a dit clairement, il y a jamais personne, à ce que je sache, qui a été pénalisé ou qui a été retenu dans sa progression parce qu'il a joué dans la Ligue américaine de hockey.
C'est vrai.
Alors, je pense que le message qu'il a envoyé à tout le monde, c'est écoutez, là, Suzuki, peut-être Peerling, il y a des joueurs comme ça que peut-être qu'il faut vraiment qu'ils aillent apprendre un peu dans la Ligue américaine, comprendre ce que c'est de compétitionner, jouer contre des hommes. Ça, c'est une autre chose aussi dans une ligue qui est extrêmement difficile. Peut-être un gars qui serait pas d'accord avec le propos, par contre, de Claude Julien, c'est Charles Hudon qui, lui, a eu l'impression qu'il a peut-être poireauté trop longtemps dans la Ligue américaine.
Ouais.
Mais ça, c'est un autre dossier.
C'est un autre dossier. OK. Deux choses avant d'être laissé. D'abord, Kuznetsov, qui est suspendu pour 3 matchs par les autorités de la Ligue nationale. On se souviendra que pour avoir échoué un test antidopage au championnat mondial de hockey en mai dernier, il a été suspendu pour 4 ans par la Fédération internationale de hockey. Moi, 3 matchs, et j'ai très hâte d'entendre ta réaction là-dessus. Moi, 3 matchs, Louis, je trouve que c'est absurde dans le sens où pas, genre, il fallait le suspendre, on savait pas combien de temps. Sais-tu quoi? Si tu le suspends-le pour le vrai, ça veut dire que tu reconnais que ce qu'il a fait, c'est pas correct. Ou sinon, suspends-le pas pantoute, lève les yeux vers le ciel, fais semblant que c'est pas arrivé dans ta ligue, puis dit que c'est la Fédération internationale qui a fait le test, puis toi, un jour, si tu as un test à passer, tu vas le suspendre de façon plus sévère. Mais trois matchs, je trouve que c'est comme mal faire son travail.
Oui, ça démontre à quel point il y a un inconfort, une inconstance. La Ligue nationale de hockey ne sait pas comment gérer ce dossier-là.
Exact.
Okay? Je me souviens, il y a quelques années, discussion avec Bill Daly dans un scrum à une réunion des gouverneurs, et il a été questionné, parce que la réalité, là, c'est que ça fait longtemps qu'on entend parler de la Ligue nationale de hockey et que des gens posent la question, est-ce qu'il y a dans la LNH un problème de cocaïne? Et là, je te dirais que ça, c'est quelque chose qui remonte peut-être même aux années 80, mais particulièrement au cours des dernières années. Okay. Je dirais depuis 2010, là, on entend beaucoup parler de ces choses-là. Il n'y a rien dans la convention collective qui stipule que, à moins qu'on trouve des montants abusifs dans ton système de drogue, comme la cocaïne, entre autres, il n'y a rien vraiment que la Ligue nationale de hockey peut faire. Absolument rien. Alors, dans ce cas-ci, il a été suspendu parce qu'il y a eu des vidéos et tout ça. Là, finalement, il teste positif pour de la cocaïne dans son système. C'est pour ça que finalement, il est suspendu 4 ans ouais. au hockey international. Ouais. La Ligue nationale de hockey n'avait pas le choix d'envoyer un message et d'agir, même si on a agi de façon extrêmement, extrêmement timide.
Ben oui.
Et je dirais que c'était un peu maladroit. Et ça fait en sorte que, qu'est-ce qui arrive là, s'il y en a un autre qui teste positif et qui est suspendu, on fait quoi? Dans ce cas-ci, ce qui fait en sorte que la Ligue nationale n'avait vraiment pas le choix, c'est la bande vidéo, tu l'as sûrement vu.
Oui, oui.
Et pour ceux qui nous écoutent oui. Présentement, je veux dire, c'était assez incriminant. Lui s'était défendu en disant que c'était pas lui, il n'avait pas touché, il n'avait rien fait, il n'avait pas pris de cocaïne. Malheureusement, ben la preuve a été faite, il a testé positif.
Exact. Mitch Marner s'entend avec les Leafs et Charlie McAvoy aussi a fait la même chose en fin de semaine, 3 ans, 4,9 millions. Je trouve que c'est une aubaine pour les Bruins, pour Charlie McAvoy. Ouais. Revenons à Marner. Avec ce contrat-là, Louis, ça a beau être des bonnies de signature, j'ai tout analysé le contrat, mais ça touche quand même le plafond. Ils sont à 94 millions, donc 12 millions au-dessus de la limite permise. Et on dit que pendant le camp, c'est pas grave, mais quand la saison commence, il faut que tu reviennes à 82 millions. C'est quoi la solution pour les Leafs? Échanger William Nylander?
Écoute, William Nylander, je me pose la question si on ne regrette pas un peu. On sait à quel point c'est un excellent joueur, mais est-ce qu'on regrette le salaire qu'on lui a versé? Est-ce qu'on regrette le fait qu'essentiellement, lui, à minuit moins une, quand c'était le temps de signer, où il allait perdre complètement son année d'admissibilité et ne pas jouer pour les Leafs l'année passée, je me pose la question si on le regrette pas un peu. Essentiellement, là où est le génie, je dirais, de Karl Dubas, il va avoir du travail à faire, mais lorsqu'on est allé chercher, on a deux joueurs dès le jour 1 de la saison régulière qu'on va pouvoir placer sur la liste des joueurs blessés, essentiellement des joueurs qui ne reviendront pas.
Ouais.
Alors, juste là, tu viens d'éliminer 10 millions. Alors, en partie, tu viens de régler une partie du problème. Tu vas devoir quand même faire une certaine gymnastique. Mais William Nylander, écoute, mettons que Marner ne signe pas. Mettons que tu n'es pas en mesure de t'entendre avec lui. On est rendu au mois de novembre, il n'a toujours pas signé. Tu commences à avoir un problème parce que qu'est-ce qui arrive si... Écoute, ils ont été chanceux d'une certaine façon à ce qu'on... trouve une façon de s'entendre, parce que Marner voulait absolument rester à Toronto.
Ouais.
Écoute, il a quand même très bien fait, il a eu un bon contrat, mais si ce qu'on entendait, qu'il voulait avoir un contrat de 3 ans avec la dernière année à 15 millions, là, tu n'avais peut-être pas le choix. C'était soit que tu échangeais Marner, ou tu essayais d'échanger un gars comme William Nylander, tu viens de te départir de Kadri. Je te dirais qu'on a sauvé les meubles, puis on était quand même chanceux dans la gestion de ce dossier-là, qui aurait pu être extrêmement, extrêmement épineux. Mais Nylander, il est mieux de performer puis il est mieux de bien faire. Je pense pas qu'ils vont l'échanger maintenant parce qu'eux autres se disent on a une fenêtre d'opportunité pour gagner aujourd'hui, mais il n'y a aucun doute qu'on va devoir être extrêmement créatif puis on va probablement commencer la saison à côté sur la masse salariale.
Parfait, gros merci Louis, bonne soirée à toi.
Merci beaucoup Dan, toujours un plaisir.
Salut bien. Louis Jean, animateur à TVA Sports.